Bonjour, bonjour, Yves au micro-micro pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui ne dérogera pas à sa tradition et qui par conséquent vous rappellera ou vous apprendra que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale les petites images qui bougent depuis un sacré bout de temps maintenant. Ce jour, dans 24 notes secondes, eh bien nous allons évoquer très brièvement, en 30 minutes, je me demande même comment on va faire, la carrière d'une actrice américaine qui a eu plusieurs vies, en l'espèce Jane Fonda, née à New York le 21 décembre 1937. Oups, je n'aurais pas dû le dire. Jane Fonda, un nom qui ne vous sera peut-être pas inconnu, eh bien c'est effectivement la fille d'Henry Fonda, qui fut une star du cinéma américain des années 30, presque jusqu'à la fin de sa vie. C'est aussi la sœur de l'acteur et réalisateur Peter Fonda, et c'est aussi, by the way, la tante de l'actrice Bridget Fonda. Bref, s'il y a une personne qui est née dans le milieu du showbiz et du cinéma, eh bien c'est bien Jane Fonda. Curieusement, mais peut-être c'est de la coquetterie, dans ses mémoires écrites bien des années plus tard, elle prétend qu'elle n'est pas au départ attirée vraiment par le métier de comédienne, mais elle finit quand même par y venir. Elle vient notamment sur les planches avec son papa, même si en fait il fera beaucoup d'années avant que ces deux-là tournent ensemble, et même si en fait, d'après ce qu'elle peut dire, son papa était quand même quelqu'un d'assez froid et à vrai dire assez distant avec ses enfants. Mais, ça n'empêche pas Jane Fonda de s'accrocher, je dirais, au début de sa carrière. Il faut dire aussi qu'elle rencontre en 1958 Lee Strasberg, qui animait à l'époque l'Acteur Studio et qui est une des premières personnes à lui dire que, certes, elle est la fille d'Henry Fonda, mais qu'en plus, elle a du talent. Et ça l'aide beaucoup. Ça l'aide beaucoup d'abord à monter sur scène, puisque beaucoup d'acteurs et d'actrices américaines commencent par le théâtre avant de passer au cinéma. Et puis, ensuite, eh bien, tout au long des années 60, elle va commencer à enchaîner les tournages à partir de 1960, justement. On la verra dans La Rue Chaude, dans Les Liaisons Coupables, etc. Des films parfois un petit peu scandaleux, notamment La Rue Chaude est l'un des premiers films où on a un couple ouvertement lesbien, ce qui dans les années 60 se faisait assez peu. Elle obtient une nomination au Golden Globe de la meilleure actrice pour un film intitulé L'école des jeunes mariés. Bref, elle commence à avoir une petite carrière, même si en 1962, pour son rôle dans Les Liaisons Coupables, adapté d'un roman d'Irwin Wallace, un magazine, le Harvard Lampoon, la qualifiera de pire actrice de l'année. Ma foi, les acteurs et les actrices ont souvent, je dirais, des retours contrastés, et ça n'empêche pas Jane Fonda de continuer sa carrière, d'autant plus que, aussi étonnant que ça paraisse, cette même année 1962, elle part en France, où elle vient tourner à Paris avec René Clément, un film intitulé Les Félins, et Jane Fonda, qui est déjà un sex symbole, partage l'écran avec celui qui est le sexe symbole des années 60, Alain Delon, vous l'aurez compris. Et ce film, Les Félins, une histoire policière un peu contournée, il est très très connu pour sa partition musicale, justement, qui est signée du grand Lalo Schifrin. Et on va en écouter un extrait dans 24 notes secondes. L'excellente et devenue cultissime partition de l'Alochifrine pour les félins, un film de René Clément tourné en 1964. À vrai dire, la musique du film est plus connue que le film lui-même, qui a connu un succès assez moyen. En tout cas, c'était pour Jane Fonda l'occasion de découvrir la France, et elle l'a découvert d'autant plus que le 14 août 1965, eh bien, elle rencontre et se marie avec Roger Vadim. Roger Vadim qui ensuite sera le découvreur de Brigitte Bardot et de quelques autres, mais qui, dans les années 60, eh bien, fera de Jane Fonda un sexe symbole, avec un film resté lui aussi cultissime, le fameux Barbarella de 1968, un film de science-fiction érotique comme on n'oserait plus en faire maintenant, ça c'est sûr, et qui contribue à faire ce qu'elle devient progressivement tout au cours des années 60 de Jane Fonda, une star. Il faut dire qu'avait précédé Barbarella, donc 1968, année bénie s'il en est, avait précédé en 1965 le 4 Balou d'Eliot Silverstein, une sorte de western musical un peu curieux, mais qui obtint 5 nominations aux Oscars. Il y avait eu aussi en 1966 la Poursuite impitoyable d'Arthur Penn avec Marlon Brando, excusez du peu. Bref, un certain nombre de films. Il y avait aussi des films plus anodins comme Pieds nus dans le parc de Jane Sachs, qui est une sorte de comédie américaine avec Robert Redford, si je me souviens bien, très anodine. Mais en tout cas, cela a permis à Jane Fonda de se faire connaître. Mais sa carrière bascule vraiment en 1969, puisqu'on la voit dans l'un des rôles principaux d'On achève bien les chevaux de Sidney Pollack, adapté d'un roman d'Horace McCoy, qui raconte quelque chose de très spécifiquement américain, c'est-à-dire je ne sais pas comment appeler ça, des marathons de danse qui avaient lieu dans les années 30, juste après la crise de 29, et où le prix était attribué aux danseurs qui restaient le plus longtemps à danser sur une piste. Et ce qui peut paraître assez anodin, voire amusant, se révélait être en fait, comme le titre français du film l'évoque, c'était la même chose en anglais, se révélait être une sorte d'exploitation de l'homme par l'homme, juste pour pouvoir survivre. Et dans cette adaptation très âpre, faite par Sidney Pollack du roman d'Horace McCoy, eh bien, le talent de Jane Fonda était absolument éclatant, et les mauvaises critiques évoquées avant d'écouter ce morceau musical, et même les hésitations qu'elle pouvait avoir, sont balayées, ce qui fait que au début des années 70, même si la suite de sa carrière sera plus en demi-tête, eh bien, elle est devenue une star, et c'est en star qu'on la voit dans le rôle principal d'un film d'Alan J. Pakula intitulé Clout. Alors Clout, je ne sais pas à quoi vous penseriez, mais c'est juste le prénom de le surnom de l'actrice principale, du personnage principal incarné par Jane Fonda. À ses côtés, il y a Donald Sutherland. La musique, elle est de Michael Small. Voilà un compositeur qu'on entend assez peu dans 24 notes secondes, et c'est bien dommage, mais ses contributions ont été assez parcimonieuses. On écoute donc un extrait de cette bande originale, Clout, dans 24 notes secondes.
Yeah.
le style ô combien original de Michael Small pour la bande originale de Clute, un film d'Alan J. Pakula tourné en 1971 avec dans les rôles principaux Jane Fonda, Donald Sutherland. Alors j'ai fait une petite erreur, je me fouette moi-même. En fait, ce n'est pas le personnage interprété par Jane Fonda qui s'appelle Clute, mais celui interprété par Donald Sutherland, John Clute. Il n'empêche qu'en 1972, à la cérémonie des Oscars, eh bien, c'est bien la première citée qui reçoit l'Oscar de la meilleure actrice. Il est loin le temps où elle débutait dans des comédies un peu sirupeuses et donc il est proche le temps où elle rencontre le succès. Ma foi, ce succès, il sera assez contrasté, mais bien à la manière de la personne qui ne se laisse jamais enfermer dans un rôle. Elle n'a pas fait mystère de son activisme politique et féministe, puisque en 1972, donc aussitôt ou peut-être même avant qu'elle ait obtenu l'Oscar, elle tourne carrément avec Jean-Luc Godard, un film de Jean-Luc Godard, donc à la manière de Jean-Luc Godard, qui s'appelle « Tout va bien ». Alors, titre programmatique, mais qui veut dire exactement l'inverse. Hein. On est chez Jean-Luc Godard. À ses côtés, il y a Yves Montand, et il faut croire que ces trois-là se sont bien entendus, puisque Yves Montand et Jean-Luc Godard iront jusqu'à réaliser un film intitulé « Lettre à Jane », qui est une sorte d'hommage à l'actrice. Il faut dire que ce film, il est consacré aux commentaires pendant près d'une heure d'une photographie prise justement en 1972 à Hanoï, où l'actrice est photographiée sur le siège d'un canon anti-aérien nord-vietnamien en pleine guerre du Vietnam, coiffée d'un casque militaire, tout sourire. Donc je vous laisse imaginer l'accueil que la presse et les hommes politiques américains ont dû réserver à cette photographie qui est restée fameuse. Il faut dire aussi qu'ensuite, eh bien, Jane Fonda s'en est, bien des années plus tard, Jane Fonda s'en est excusée, qu'elle était allée quand même un peu loin dans la provocation anti-américaine, mais c'est pour dire, je dirais, l'aura du personnage. Elle venait d'obtenir l'Oscar de la meilleure actrice, ou alors elle allait l'obtenir. À mon avis, elle venait de l'obtenir parce que sinon, elle ne l'aurait pas obtenu. Et tout ce qu'elle trouvait à faire, eh bien, c'était poser contre les ennemis les plus acharnés des Américains engoncés dans la guerre du Vietnam. Et il faut dire qu'elle était et elle a toujours été une adepte de la contre-culture. C'est certainement pas par hasard si elle a passé 68-69, elle a passé 8 ans en France dans ces années-là, elle parle parfaitement le français, et donc eh bien, ce systématisme dans l'affirmation parfois peut-être un peu exagérée de ses idées politiques peut dérouter, pour ne pas dire plus. En tout cas, eh bien, pendant les années qui suivent, elle continue à tourner, mais ma foi, ce ne sont pas des rôles vraiment importants. On la voit notamment dans L'Oiseau Bleu, une improbable coproduction américano-soviétique signée de George Cukor, tournée en 1976. On la voit dans Julia, un des derniers films de Fred Zinnemann, tourné en 1977. Dans Retour de Al Ashby, qui est justement consacré au retour des soldats américains de la guerre du Vietnam en 1978, dans Le Syndrome chinois, qui est un gros succès avec Jack Lemmon, si je me souviens bien, de James Bridge en 1979, dans Le Cavalier électrique côté de Robert Redford, etc., etc. Mais dans les années 70, ce qui fait surtout le succès de Jane Fonda, eh bien, ce sont ses cours d'aérobic que personne n'aura oublié. À partir de 1978 et jusqu'au début des années 80, Jane Fonda's Workout, c'est le nom, cette série de vidéos destinées, chez nous on a eu Véronique et Davina, mais vous les avez peut-être oubliées, mais aux États-Unis ils avaient Jane Fonda, et Jane Fonda, eh bien, elle vendit carrément 17 millions d'exemplaires de ses cassettes vidéo, celui qui lui permit de financer entre autres la campagne de son second mari, il y a longtemps qu'elle avait divorcé de Roger Vadim, un activiste politique nommé Tom Hayden. Bon, tout cela nous emmène un peu loin du cinéma, mais ça fait partie de la personne aussi, Jane Fonda, et elle est peu séparable, je dirais, entre vie publique et vie privée, elle fait partie de ces gens-là. Mais on va quand même revenir au cinéma et on va écouter un extrait de la très belle partition de Agnès de Dieu, Agnes of God, un film de Norman Jewison tourné en 1985. À ses côtés, il y a Anne Bancroft, Meg Tilly, comme le titre du film le suggère, ça se passe dans un couvent près de Montréal. La bande originale du film, elle est signée de celui qui, à l'époque, menait une brillante carrière américaine, Georges Delerue, dans 24 notes secondes. Thank you. Un bel extrait de la bande originale Daniels of God, un film de Norman Jewison tourné en 1985, une musique de Georges Delerue. Un film qui mettait en vedette Jane Fonda et Anne Bancroft et qui se passait quelque part dans un couvent près de Montréal. Alors, je vous rassure, vu son passé un peu sulfureux tel que nous venons de l'évoquer, Jane Fonda y jouait le rôle d'un docteur, non pas d'une sœur ou d'une mère, et en l'espèce la mère Myriam Russe, eh bien c'était Anne Bancroft, connue pour son rôle dans Le Lauréat, qui s'y collait, si je puis dire. Bon, le film était adapté d'une pièce de théâtre, parfois ça se voyait un peu, mais la photographie était signée de Sven Nykvist, un nom qui ne vous dira peut-être rien, mais Sven Nykvist fut l'un des opérateurs préférés d'Ingmar Bergman, et ensuite aussi celui de Woody Allen, donc c'est vous dire que l'homme avait de la bouteille, et Norman Jewison indique, excusez du peu, qu'il avait demandé à Sven Nykvist de s'inspirer de Vermeer pour ses compositions. Il est vrai que le film était visuellement très très réussi, même s'il était dramatiquement un peu plus convenu. En tout cas, eh bien, c'était l'occasion pour Jane Fonda de poursuivre une carrière. Quelques années plus tôt, je voulais le mentionner, j'ai oublié de le faire, eh bien, elle avait donné la réplique à son père en 1981 dans La Maison du Lac pour ce qui se devait être tout simplement le dernier film de son père. C'était une sorte de bel hommage. Il ne me semble pas que ces deux-là s'étaient avant rencontrés sur les plateaux. Pourtant, ils avaient eu ô combien chacun une riche carrière. Ensuite, eh bien, elle déclara abandonner le cinéma à partir des années 90, mais il faut croire que le démon du jeu au sens acteur, actrice du terme était trop grand, puisque effectivement elle s'arrêta 4 ans, 5 ans entre Stanley Iris, tourné en 1990 par Martin Ritt, et Sa mère ou moi, tourné en 2005 par Robert Luketic. Dans ce dernier film, elle était opposée à Jennifer Lopez, quoi. Bref, et ça, comme le film se révéla être un gros succès de comédie, il faut dire que le duo, aussi improbable qu'il paraît, de ces deux-là fonctionnait bien. Eh bien, Jane Fonda décida de retourner à l'écran et depuis, elle ne le quitte plus. Si vous vous souvenez de la date de sa naissance, que je vais me garder de rappeler, eh bien, elle a entre 80 et 90 ans, je te dirais, mais on la voit partout, encore, avec une énergie que sans doute les leçons de aérobic des années 80 lui ont communiqué. Bon, les filles ne sont pas toujours d'une très très grande tenue, mais ça fait quand même plaisir de voir une femme arrivée à un certain âge, ne pas en avoir honte, ne pas recourir à des trafics que je vous laisse deviner, numériques ou chimiques, juste assumer son âge et sa performance. Et donc, c'est sur ce bel hommage à une actrice, à une femme qui a eu une vie compliquée, parfois excessive, mais après tout, ça ne regarde qu'elle. Ben, c'est en hommage à cette belle personne qu'on va écouter un extrait de la bande originale d'un film tourné en 2015 par Gabriele Muccino, je ne l'ai pas vu, ça s'appelle Père et Fille en français, Fathers and Daughters, Pères et Filles, au pluriel en anglais, au singulier en français, comprenne qui pourra. En tout cas, dedans, il y a Jane Fonda. Ah oui, la musique, comment pouvais-je oublier la chose? La musique de ce film, elle est signée de Paolo Buonvino, c'est quand même mieux, dans 24 notes, seconde. Thank you. Et voilà, 24 secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt. See you.
Bye bye.